tous et soyez les bienvenus jusqu'à 14h dans Europe Midi.
Europe Midi, votre journal.
Édition spéciale, nouveau gouvernement.
Wendy Bouchard.
Et oui, merci de nous rejoindre en public, en direct. Vous avez été informés dès 11h15 de la composition d'une partie du gouvernement Valls. 16 ministres, autant d'hommes que de femmes, en attendant la semaine prochaine la liste des secrétaires d'État. Que penser de l'organisation des forces, des nouveaux entrants, Ségolène Royal à l'écologie, François Rebsamen au travail. On vous détaille point par point la composition de cette nouvelle équipe, les surprises, les qualités de ce gouvernement. Quand je dis surprise, notamment Christiane Taubira qui demeure garde des Sceaux. Qu'en disent les acteurs économiques? C'est important de les entendre immédiatement. Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière, Jean-François Roubaud de la CGPME viendront s'exprimer dans ce studio. Vous aussi, vous avez la parole au quotidien, vous le savez, comme citoyen, comme électeur, au 3921 dans le studio, sur Twitter, hashtag E1Midi. Dites-nous ce que vous pensez des entrants, des punis de ce gouvernement. À partir de 13h, grande page politique pour réagir aux personnalités et aux missions des nouveaux ministres avec Benoît Apparu de l'UMP, Dany Cohn-Bendit, Thierry Mandon du PS, Marie-Noëlle Lindemann, les grandes voix d'Europe 1 également, Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Robert Namias. Vous savez tout, nous sommes ensemble pendant 1h30, il est 12h30.
Europe Midi, votre journal.
Édition spéciale, nouveau gouvernement.
Édition spéciale et journal à la hauteur de cette édition. Bonjour Pierre de Villeneuve.
Bonjour Wendy, bonjour à tous. 16 ministres donc, 16 ministres choisis ce matin par François Hollande et Emmanuel Valls à l'Élysée. En attendant sans doute la semaine prochaine les secrétaires d'État, direction le palais de l'Élysée où l'on retrouve David Doucan du service politique d'Europe 1. David, avec vous, on fait le détail des ministres.
Absolument, alors Laurent Fabius reste ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Ségolène Royal fait son entrée au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Benoît Hamon devient ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Christiane Taubira, vous le disiez, demeure garde des Sceaux, ministre de la Justice. Michel Sapin prend le ministère des Finances et des Comptes publics. Arnaud Montebourg devient Montengrade, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Marisol Touraine garde son poste aux affaires sociales. François Rebsamen, autre entrant de ce nouveau gouvernement, devient ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue Social. Jean-Yves Le Drian reste ministre de la Défense. Bernard Cazeneuve, lui, devient ministre de l'Intérieur. Najat Vallaud-Belkacem garde le droit des femmes, mais son ministère est élargi à la ville, à la jeunesse et au sport. Marie-Lise Lebranchu reste ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l'État et de la Fonction publique. Aurélie Filippetti à la culture et à la communication. Stéphane Le Foll, lui aussi, reste à son poste ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, mais, et c'est important, devient porte-parole du gouvernement. Sylvia Pinel, anciennement ministre de l'Artisanat et du Tourisme, devient ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires. Et enfin, Georges Paul Angevin, anciennement ministre de la Réussite Éducative, devient ministre des Outre-mer.
Merci David Doucan, en direct de l'Élysée pour Europe 1.
Voilà, vous avez donc la composition de ces 16 ministres qui vont siéger au Conseil des ministres. Alexandre Carra, vous êtes chef du service politique d'Europe 1. Avec vous, maintenant qu'on a l'annonce de cette composition, on peut un petit peu dessiner les contours de cette nouvelle équipe. Qu'est-ce qu'on en retient à midi, Alexandre?
Bah écoutez, beaucoup de symboles dans ce gouvernement. D'abord, il a été composé en moins de 20 heures, probablement un record. Ensuite, il est resserré, seulement 16 ministres de plein exercice. Il y en avait 20 dans le gouvernement héros. Il est paritaire, 8 femmes, 8 hommes. C'est le retour de Ségolène Royal qui devient numéro 3 du gouvernement. Et du même coup, l'écologie se voit propulsée par importance en tête des ministères. Un autre symbole, la montée en puissance de l'aile gauche du PS avec Benoît Hamon à l'éducation et Arnaud Montebourg à l'économie. Une réponse tout à la fois à la débâcle des municipales et une manière de contrebalancer l'image droitière de Manuel Valls. À noter également que les proches du président se taillent la part du lion et entourent Manuel Valls. Ségolène Royal, Michel Sapin, François Rebsamen, Jean-Yves Le Drian, Bernard Cazeneuve, Stéphane Le Foll, Najat Vallaud-Belkacem. La grosse surprise, bien sûr, c'est le maintien de Christiane Taubira au ministère de la Justice. Ni le président de la République, ni le Premier ministre n'ont voulu, après le départ des écologistes, se priver de celle qui est aussi un symbole à gauche. Pas de surprise, en revanche, pour les deux grands perdants. Vincent Peillon, qui a raté son passage à l'éducation, malgré des moyens considérables, et Pierre Moscovici, qui fait les frais des ratages de Bercy et de son incapacité à s'imposer politiquement.
Merci Alexandre Carra, vous restez bien sûr avec nous dans ce journal et dans cette édition spéciale. Parmi les nouveaux entrants, elle était pressentie, annoncée. Ségolène Royal prend comme prévu la tête d'un grand pôle ministériel, celui de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. C'est le grand retour de Ségolène Royal, Sébastien Krebs.
Oui, souvenez-vous, elle avait laissé la scène nationale il y a 2 ans sur un double coup dur. D'abord ses larmes au soir de son échec à la primaire socialiste, puis sa lourde défaite aux législatives à La Rochelle, alors qu'elle se voyait déjà au perchoir à la présidence de l'Assemblée nationale. Double coup dur donc, et feuilleton politico-people pour l'ex-compagne du président après le tweet assassin de celle qui s'était posée en rivale, la première dame Valérie Trier-Valeur. Aujourd'hui, cet obstacle a disparu et c'est presque un retour en grâce, nommé numéro 3 du gouvernement dans l'ordre protocolaire. Ségolène Royal sort d'une réserve qu'elle s'était imposée pendant ces longs mois, être prête mais ne jamais en parler. Elle s'affichait comme présidente à plein temps de sa région Poitou-Charentes au journal Le Point en septembre dernier. Elle distillait par contre quelques phrases. « J'attends sans impatience », disait-elle, mais elle se posait déjà en recours. « J'ai un charisme de Laura Dupois, je suis un personnage sécurisant. » Le recours encore dimanche dernier, au soir du second tour, cataclysmique pour la gauche, elle réapparaît. Dès 20h sur les plateaux télé, elle pilonne le gouvernement sortant. Un avertissement très sévère, dit-elle. Elle réclame un changement de méthode. Aujourd'hui, à 60 ans, elle obtient un grand ministère de l'écologie. L'environnement, elle en a déjà été la ministre, sous Pierre Bergoglio, en 1992.
Alain Juppé, Alexandre Carat disait tout à l'heure, il n'y a rien de bien nouveau dans ce gouvernement, si ce n'est l'arrivée de Ségolène Royal. Comeback réussi, vous le dites aussi à midi.
Ah bah c'est même une véritable résurrection pour Ségolène Royal. Hein. Et puis, elle se taille la part du lion. Elle est très haut dans l'ordre protocolaire, numéro 3. Et en plus, elle a un ministère très large, puisqu'il regroupe l'énergie. Et surtout, elle va avoir à mener à bien une loi très importante pour François Hollande. Il en a parlé lors de son intervention. C'est la loi sur la transition énergétique. Et en cela, elle devra parler avec les Verts et se les concilier. Parce que vous savez, la majorité au Parlement est difficile désormais pour le Parti Socialiste qui n'a qu'une voix d'avance au niveau de la majorité absolue.
À l'Éducation nationale, Benoît Hamon donc remplace Vincent Peillon, critiqué pour sa réforme des rythmes scolaires. Fabien Cazot, vous allez nous en dire un peu plus sur le nouveau ministre de l'Éducation nationale.
Alors d'abord, c'est un jeune ministre, 46 ans, un des plus jeunes que la rue de Grenelle ait connu, un super ministre numéro 4 du gouvernement qui va diriger l'Éducation nationale plus l'enseignement supérieur et la recherche, deux ministères en un. Benoît Hamon, c'est l'aile gauche du Parti socialiste, compatible donc sur le papier avec la frange radicale des syndicats enseignants. Ce sera un atout pour discuter d'épineux sujets sur lesquels son prédécesseur Vincent Peillon a trébuché, comme les nouveaux rythmes scolaires. 80% des communes doivent encore y passer à la rentrée de septembre prochain. Il y a aussi la promesse de créer 60 000 postes sur le quinquennat dans l'éducation nationale. Pendant la campagne de François Hollande, Benoît Hamon, alors porte-parole du PS, en avait fait un de ses thèmes de prédilection et le nouveau ministre se s'est très attendu aujourd'hui sur la réaffirmation de cet engagement présidentiel.
Fabien Cazot, merci beaucoup Alexandre Cara. C'est un bon gage notamment pour la gauche de la gauche, comme vient de le souligner Fabien.
Ah bah c'est une réponse directe au municipal, hein. Il s'agit, je le disais, tout à la fois de mettre des gages pour la gauche qui, effectivement, a montré son mécontentement lors de ces municipales et surtout de contrebalancer l'image droitière de Manuel Valls qui est très contestée à la gauche du PS. Et il se trouve que Benoît Hamon, en l'occurrence, a été très longtemps le chef de file de la gauche du Parti Socialiste. Vous voyez, tout ça est très symbolique.
Et puis, il y a Bercy. On a longtemps dit qu'il y avait trop de ministres qui ne s'entendaient pas forcément. Manuel Valls et François Hollande ont scindé l'économie et les finances. L'économie à Arnaud Montebourg et les finances à Michel Sapin-Marcialiou.
Oui, c'est un modèle à l'allemande, en fait, puisque vous avez les finances, le budget d'un côté, puis donc l'économie, c'est-à-dire l'industrie de l'autre. Vous avez la rigueur, j'ai envie de dire, avec Sapin. Et là, il va devoir se faire un peu violence parce qu'il arrive, lui, d'un ministère qui était un peu sanctuarisé jusque-là. Et puis, vous avez le ministère de la dépense public, parce que l'industrie, pour Arnaud Montebourg, c'est remettre de l'argent pour relancer l'économie. Ça s'annonce donc par essence assez tendu entre les deux hommes, sachant qu'il y a cette incertitude qu'on appelle Arnaud Montebourg, l'électron libre, un de ceux qui a le plus tapé sur Bruxelles, en plus, au nom du Made in France, un eurosceptique. Quel signal au moment où on va devoir négocier une rallonge budgétaire auprès de la Commission européenne, sachant que Michel Sapin ne souhaitait pas avoir ce rôle de négociateur auprès de Bruxelles. Il ne parle pas forcément très bien anglais, puis surtout il n'avait pas envie de revenir à Bercy, Michel Sapin. On lui a demandé, au nom de l'amitié de 30 ans avec François Hollande, parce qu'on n'arrivait pas ce matin encore à trouver un titulaire à Bercy, à mettre en face d'Arnaud Montebourg. Donc il n'avait pas eu Bercy au moment de la prise de fonction de François Hollande. Au nom de son amitié, on lui avait dit « fais un effort ». Tu vas aux affaires sociales. Aujourd'hui, on lui dit fais un effort au nom de l'amitié des 30 ans. Tu prends Bercy alors qu'il ne le voulait pas. Donc ça s'annonce assez tendu effectivement entre les deux hommes.
Oui, c'est ça les amis de 30 ans. Merci beaucoup Martialiou. Alors sur les grands enjeux économiques, nous ferons réagir Jean-Claude Mailly ici en studio pour Force Ouvrière. Jean-François Roubaud, président de la CGPME. Vous nous dites aussi, vous, en qualité de citoyen, ce que vous pensez de la composition de cette nouvelle équipe, l'entrée de Ségolène Royal, l'absence des Verts au 39-21. Vous avez la parole. Il y a un ministère important, évidemment, encore un autre, Pierre de Villeneuve, c'est celui de l'intérieur, dirigé dirigée jusqu'à présent, on le rappelle, par Manuel Valls.
Et oui, et là où on l'en attendait peut-être Jean-Yves Le Drian, Jean-Jacques Urvoas ou encore François Rebsamen, c'est Bernard Cazeneuve qui arrive au ministère de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve qui arrive du budget, Alain Inco.
Oui, quand il a été nommé au budget l'an dernier, c'était pour remplacer au pied levé Jérôme Cahuzac. Et cette fois encore, Bernard Cazeneuve est un peu le pompier de service, un ministre de consensus. Le résultat en tout cas d'un compromis après un bras de fer qu'on nous décrit comme extrêmement tendu jusqu'au dernier moment entre François Hollande, qui aurait voulu nommer à Beauvau son vieil ami François Rebsamen, et Manuel Valls, qui lui voulait imposer un proche, le député Jean-Jacques Urvoas. À l'arrivée donc, ce sera Bernard Cazeneuve, juriste de formation, ancien avocat spécialisé dans le droit des affaires, mais aucune expérience de la police et de la gendarmerie. Lui, c'est plutôt les douanes et la défense. Il est député, il a été député maire de Cherbourg. Donc ce n'est pas forcément un handicap, nous disent les syndicats de police ce matin, qui se méfient tout de même d'un homme qui était au budget et qui donc a fait rogner tous les budgets, y compris, il a tenté de le faire, à la police. Ils expliquent, ils espèrent que maintenant, place Beauvau, eh bien Bernard Cazeneuve sera plus généreux.
Merci Alain Inco, chef du service police-justice d'Europe 1. Une grande surprise dans ce remaniement, on l'a dit encore avec Alexandre Carat il y a quelques instants, le maintien à la justice de Christiane Taubira, qui pourtant s'était retrouvée, on s'en souvient, dans un bras de fer avec Manuel Valls lui-même sur la réforme pénale, fragilisée dernièrement à cause de ses déclarations publiques sur les écoutes de Nicolas Sarkozy. Christiane Taubira reste garde des Sceaux. Qu'en pensent les magistrats? Écoutez la réaction de Christophe Régnard, président de l'Union syndicale des magistrats.
C'est une décision quand même très très surprenante. On s'attendait clairement à un changement de ministre. Bon, maintenant, on va continuer donc avec Madame Taubira. Il va juste falloir, après 22 mois de surplace, de discussions sans fin et d'absence de loi et de modifications nécessaires de la justice, que enfin peut-être la ligne change, l'attitude change et qu'on puisse avoir des choses concrètes. Hein, les grèves sont dans la rue, les magistrats sont dans une logique de souffrance au travail. Aucune réforme n'est passée. Enfin, moi, je suis quand même très inquiet pour l'avenir. L'état est catastrophique dans ce ministère et rien n'est fait.
Christophe Régnard, président de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, interrogé par Noémie Schulz.
Voilà pour ceux qui restent, voilà pour les entrants. En négatif, Alexandre Carat, il y a les grands sortants, les punis du gouvernement.
Les grands perdants, hein. D'abord Vincent Peillon, pour qui c'est un fiasco total. Hein. Le monsieur éducation de la campagne de François Hollande s'était préparé depuis longtemps à ce ministère. Le président de la République lui avait donné des moyens considérables, augmentation de budget et promesse d'embauche de 60 000 fonctionnaires. Mais voilà, il a raté la réforme des rythmes scolaires, aliénant au gouvernement parents d'élèves et profs et donnant un argument en or à la droite dans la campagne des municipales. Ratage aussi pour Pierre Moscovici. Les dysfonctionnements de Bercy qui ont collé comme un sparadrap pendant 22 mois au gouvernement héros. Pierre Moscovici, dont les affrontements avec Arnaud Montebourg ont alimenté la chronique. Il paye aussi, Pierre Moscovici, son incapacité à s'imposer politiquement.
Des réactions politiques maintenant, commençant par l'opposition d'abord. Que pense-t-elle de ce remaniement, de cette nouvelle équipe? Écoutez le patron de l'UMP, Jean-François Copé.
Lorsque je vois la composition de ce gouvernement, je suis très inquiet. Tout ça pour ça. Voilà que M. Valls décide de maintenir Mme Taubira à la tête du ministère de la Justice, après deux années calamiteuses en matière de politique pénale. Je découvre que M. Sapin va être en charge de la réduction du déficit budgétaire. Il était en charge de la réduction du chômage, c'est un des échecs les plus désastreux de ce gouvernement depuis deux ans. Il y a de quoi s'inquiéter pour la réduction du déficit budgétaire. Tout cela donne le sentiment d'un bateau ivre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne démarre donc pas sous les meilleurs auspices.
Jean-François Copé au micro Europe 1. D'Aurélie Herbemont du côté des Verts, qui, rappelons-le, ont refusé d'entrer au gouvernement Valls. Emmanuel Cosse, la chef de file d'Europe Écologie Les Verts, s'explique là-dessus dans un entretien au Monde. Que pense-t-il de ce grand pôle écologie attribué à Ségolène Royal? Écoutez là-dessus Yannick Jadot.
C'est incontestablement un poids lourd. Maintenant, on sait aussi qu'avec l'expérience Borloo, le fait d'avoir un poids lourd et un grand ministère ne signifie pas forcément une grande ambition écologique, ne signifie pas la mise en œuvre de la transition énergétique. Ségolène Royal a affiché ces dernières années une ambition écologique, mais on sait en France que ça dépend très souvent des arbitrages qui sont faits à l'Élysée, des arbitrages qui sont faits à Bercy. Moi, j'attends que Ségolène Royal affiche ses ambitions. Le secteur des énergies renouvelables plonge depuis maintenant 4 ans. Donc, il faut redresser les énergies renouvelables et il faut engager la fermeture de centrales nucléaires en France.
Voilà les conseils et surtout l'opinion de Yannick Jadot sur Ségolène Royal, interrogé par Laure d'Autriche.
Sur les profils de ces nouveaux ministres, sur cette composition de gouvernement, on vous écoute dans ce studio et au 39-21 dans un petit instant. Mais nous sommes allés, avec Walid Bélérissoul, poser la question à quelques Parisiens dans un bar sur les Champs-Élysées. Où vous vous trouvez, Walid ?
Oh bah écoutez, c'est à la fois simple et unanime, hein, devant l'écran de télévision, de part et d'autre du comptoir, on a eu la même réaction, d'une phrase, on prend les mêmes et on recommence. Voilà ce que m'a dit Michael, un client du café.
Sacré remaniement. Tobias reste, tout le monde reste pratiquement, il n'y a aucun changement.
Vous vous attendiez à quoi ?
Bah avec tout ce qui s'est passé avec les élections municipales et tout, je m'attendais vraiment à un meilleur, à plus de changements. Il n'y a rien de spécial, quoi.
Alors, ce qu'on remarque ici quand même, c'est que les ministres seront moins nombreux dans l'équipe de Manuel Valls. Et ça, ça a été plutôt bien accueilli autour de moi. Écoutez.
S'il n'y en a que 16, ça peut peut-être être plus centré, oui. Ça, on va voir ça au Conseil des ministres. Il faut laisser le temps, autant on verra bien.
En espérant qu'ils communiquent plus entre eux, qu'ils se contredisent moins, qu'ils avancent vraiment sur les problèmes de la France, quoi.
Les deux personnes que vous venez d'entendre sont chauffeurs et avec les patrons du bar où je me trouve, ils attendent exactement la même chose. Là aussi, c'est unanime que le nouveau gouvernement annonce des baisses d'impôts.
Merci Walid Bérissoul en direct d'un bar des Champs-Élysées. Dans le reste de l'actualité, rapidement, cette enquête européenne, 3 millions de logements HLM sont contaminés par l'amiante. Cela représente potentiellement 10 millions de personnes. Le coût du désamiantage est colossal, 50 milliards d'euros d'ici 2020. Un général de police tué dans un double attentat ce matin au Caire en Égypte, deux bombes ont explosé. État de catastrophe naturelle dans les régions d'Arica et Tarapacán au nord du Chili après ce séisme de magnitude 8,2. Au dernier bilan, on compte 5 morts. Et puis le football, PSG-Chelsea au Parc des Princes ce soir, quart de finale aller de la Ligue des Champions. Match à suivre en direct et en intégral sur Europe 1 avec une émission spéciale dès 20h autour de François Clauss, Raymond Domenech et Guy Roux.
Merci beaucoup Pierre Devineau au cœur de cette édition spéciale. On parle maintenant météo et on vous retrouve dans un instant. Pierre, Nathalie Rioué,
oui,
bonjour. Alors
bonjour.
Il fait toujours aussi doux aujourd'hui et on en profite parce que ça commence à se dégrader par le sud.
Oui, une dégradation qui se confirme dans le golfe du Lion où le temps est couvert et humide, ainsi qu'en Aquitaine où là les pluies prendront un caractère orageux. Quelques ondées sous un ciel voilé entre la Manche et la Vendée et puis le vent qui se renforce, notamment l'OTAN dont les rafales atteindront les 110 voire 120 km à l'heure. La vigilance orange sur le Tarn et sur la Haute-Garonne est donc déclenchée. Vent violent également sur les crêtes pyrénéennes jusqu'à 130 km à l'heure et quand même un peu moins fort dans la vallée du Rhône. Ailleurs, on continue avec ce ciel plus ou moins voilé, un voile qui d'ailleurs conditionne la hausse des températures.
Un tout petit mot justement sur ces températures.
15 à 25 degrés cet après-midi de Quimper à Montluçon, 17 à Perpignan, 21 à Bordeaux, 22 à Lille, Paris et Lyon et 24 à Strasbourg.
Merci Nathalie Rioué. Alors vous avez la parole dans cette édition. Est-ce qu'on prend les mêmes ? Recommence-t-on, comme le disait à l'instant un auditeur, dans ce gouvernement ou y a-t-il un peu de changement et lequel pour vous ? Vous nous dites cela au 39-21 et en studio et sur les grands enjeux économiques, sur les réactions. Jean-Claude Mailly et Jean-François Roubaud nous rejoignent en studio. Vous les interpellez et ils nous donnent leurs sentiments. Premier à 12h46 sur Europe 1.
Europe Midi, votre journal, édition spéciale, nouveau gouvernement.
En public et en direct, avec l'annonce du gouvernement, il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment sur les grands enjeux économiques. Alors, réaction immédiate à cette équipe, à cette nouvelle ligne, puisque le sujet, Jean-Claude Mailly, bonjour.
Bonjour.
Jean-François Roubaud, bonjour à vous.
Bonjour.
Le sujet qui vous préoccupe quand même aujourd'hui, c'était évidemment de savoir qui irait à Bercy. Pierre Moscovici, ici, vous avez manifestement déçu. Qu'il sorte, déjà, c'est une bonne chose pour vous, qu'il soit remplacé par Montebourg, en est une. Jean-Claude Mailly.
C'est pas complètement par Montebourg, hein. Au-delà des hommes, c'est M. Sapin qui va prendre les finances et les comptes. Écoutez, c'est M. Moscovici, on ne le voyait pas souvent. Mmh. J'ai dû le voir une ou deux fois depuis qu'il était ministre. Alors j'espère que M. Sapin, je pense que oui, on le verra plus souvent. Donc ce n'est pas une déception qu'il parte, au moins sur ce plan-là.
Jean-François Roubaud, qualité d'avoir un tandem Michel Sapin-Arnaud Montebourg?
Je crois que les hommes sont performants, on les connaît bien. Je connais bien, moi, contrairement à ce que dit Jean-Claude Mailly, je connais bien M. Moscovici. On a travaillé beaucoup ensemble, voilà, sur les délais de règlement, sur beaucoup de choses. Mais je pense que j'aurai aussi les mêmes entretiens avec Michel Sapin. Donc il va changer de rôle simplement, mais l'homme est de qualité, bien évidemment.
Bon, il confirme ce que je disais. En fait, il travaillait plus avec les patrons qu'avec les syndicats.
D'accord. Quoi, bon, donc vous êtes à peu près d'accord. Alors 12h50, nous avons Vincent qui nous appelle de Nice et qui veut réagir sur l'arrivée de Madame Lebranchu, je crois. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour Wendy.
Je me permets
juste en fait une question toute simple. C'est que Madame Lebranchu était déjà ministre des fonctionnaires pendant 2 ans et je vois qu'elle est sur la réforme de l'État et de la fonction publique, en sachant que Monsieur Hollande, dans son discours dernièrement, nous a rappelé que le pacte de responsabilité serait sur la réforme de la fonction publique.
Donc vous dites que ce ministère ne sert à rien ?
Eh ben, il y a déjà pendant 2 ans, Madame Le Branchu, on n'a presque pas parlé dans les médias, on n'a jamais entendu, on n'a jamais vu. Mmh. Et je suis un peu surpris de ce choix. Est-ce que c'est vraiment le bon choix de garder Madame Le Branchu sur en plus la réforme de l'État et de la fonction publique qui fait partie du pacte de responsabilité où on doit économiser 50 milliards?
Eh bien, c'est Jean-Claude Mailly qui va vous répondre, Vincent. Merci.
Non, le périmètre de Madame Le Branchu est resté le même. Elle avait déjà la réforme de l'État, la décentralisation et la fonction publique. C'est quelqu'un qui connaît bien la fonction publique. Maintenant, un ministre de la fonction publique, j'en sais rien, je ne parle pas à sa place, mais si elle avait plus de moyens, je pense que ce serait plus facile également, à la fois sur les questions salariales. Maintenant, il y a un problème de fond qui va se poser, quelle que soit l'équipe, et ça va être très rapide. C'est la mise en place du pacte de responsabilité. Mmh. Les 50 ou 60 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques, où ça va taper? Parce que ça va taper obligatoirement à un endroit ou à un autre. Ça va être difficile nationalement, mais il va falloir aussi discuter avec Bruxelles. Et là, je leur souhaite bien du courage.
Bah, vous aurez un autre interlocuteur, ce sera Pierre Moscovici. Vous allez le retrouver à un moment donné.
Ah, pardon, moi, je ne sais pas.
Peut-être
commissaire
à la commission.
Européen, peut-être. Bah, oui, bon.
Alors, Arnaud Montebourg, encore une fois, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Jean-François Robot pour la CGPME. C'est un gage au Made in France, c'est un gage à la réindustrialisation que vous applaudissez à midi.
C'est une continuité surtout de cette réindustrialisation que nous appelons de tous nos voeux, dont je parle beaucoup bien sûr avec M. Montebourg. Mmh. Je crois que là il n'y a pas beaucoup de changements sur le fond, si vous voulez. Il faut simplement qu'on avance sur les dossiers. Nous avons des dossiers sur les finances, sur l'économie et sur le social, en tant que CGPME, patron de petites ou moyennes entreprises. Je veux parler simplement au niveau sur le fiscal, par exemple, que l'on ait des baisses d'impôts sociétés de manière importante pour nos pays. PME qui en paye beaucoup plus que les grandes entreprises. Mmh. Et puis sur un plan social, on a 2 chantiers d'urgence. Je vais appeler M. Rebsamen dès cet après-midi.
Le ministre qui est nouveau
ministre du Travail, sur le problème de la pénibilité et le problème du temps partiel. Et puis, il faut aller voir à quelle vitesse on va aller dans le pacte de responsabilité. Avec Jean-Claude Mailly, on n'est pas d'accord sur le fond là-dessus, donc on le sait bien. Mais par contre, nous, on y tient beaucoup parce qu'on pense que c'est la seule solution pour sauver notre pays du bourbier dans lequel il est.
Et là, a priori, on a un gouvernement suffisamment offensif pour aller vite, Jean-Claude Mailly?
Ça, on verra. Ça, on verra. Moi, ce que
non,
je
mais
retiens...
la personnalité de Montebourg, vous la connaissez.
Oui, non, mais moi, je considère que, en tant que ministre de l'Industrie, il a fait le travail. Savez, on n'a pas relevé, mais il y a un élément qui est nouveau. C'est qu'avant, on parlait d'un ministère de l'économie et des finances. Mm-hmm. Et là, on a coupé en deux. Il y a un ministre des comptes pour aller vite. Finances, équilibre macroéconomique,
les comptes,
c'est Monsieur Sapin. Et maintenant, l'économie est rattachée à Monsieur Montebourg.
Oui.
Donc, c'est une nouveauté dans les découpages ministériels. Maintenant, c'est quelqu'un de Arnaud Montebourg est quelqu'un de volontaire. Et sur le domaine industriel, il a déjà fait un travail. Il y en a encore à faire beaucoup, bien entendu, mais il y a un travail qui a été fait.
Bon, je sens une satisfaction du côté patronal, du côté syndical, quand même à midi. Vous laissez le temps à l'action. Hein. Monsieur, vous avez le studio en studio.
Bonjour. Donc, moi, c'est pour l'ensemble du gouvernement. Je ne vais pas vous cacher, je suis un petit peu déçu. Y a personne qui a, il y a que 2 nouveaux entrants. Tout le monde reste à peu près. On pourrait dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais pour le moment, le gouvernement on a
prouvé
son échec. Et je suis un peu déçu. Je pensais qu'en changeant de premier ministre, on pourrait vraiment changer de ministre parce que ils ont bien prouvé que ça ne marchait pas leur politique. Et finalement, non, on change de premier ministre, mais on garde les mêmes ministres qui changent peut-être de poste, mais ça n'a pas changé grand-chose.
Oui, Jean-Claude Bailly, c'est la critique que vous auriez pu faire.
Oui, non, mais je parle quasiment en mon nom propre. Quand vous changez de premier ministre, quand vous voulez changer et remanier, ou vous gardez le premier ministre, et pour montrer que ça change, vous faites une inflexion de votre politique. Si vous changez le Premier ministre, ça permet aussi peut-être de ne pas faire d'inflexion de politique. Vous savez, tout ça, c'est très compliqué. Nous, on n'est pas consultés sur qui fait quoi. Pour le moment, ce que j'ai entendu du président de la République, il y a 2 jours, on ne change pas de politique. On continue sur la même politique. Donc, il y a des changements de tête, notamment au niveau du Premier ministre, mais ce n'est pas pour autant qu'il y aura un changement d'orientation. Et ça va être là le problème de fond. Au-delà des hommes et des femmes, le problème de fond se situe sur quelle politique économique et sociale.
Jean-François Robot,
la CGPME. Je comprends la question de monsieur. Je crois que ce qui est important de noter quand même, c'est d'abord, on change le chef, le Premier ministre, qui est important, parce que c'est une équipe, un ministère, il y a tous les ministres. Et surtout, on diminue par 2 le nombre de ministres. Et donc, c'est quand même plus facile de gérer 16 ministres que 37 ou 38, je ne sais plus le nombre en tête. Et là, il faut qu'on arrête les cacophonies qu'on a depuis 2 ans, entre des hordes contre ordre, sur le plan fiscal, social, sur tous les plans, on a tout vu. Je dis oui et puis le lendemain je dis non. Donc là, il y a besoin d'une coordination plus importante. Je crois que la ligne, elle a été fixée par le président de la République, pacte de responsabilité, pacte de solidarité, etc. Mais il faut qu'il y ait un chef qui l'applique et qui l'applique rapidement, et ça en cohésion avec une équipe en cohésion ensemble.
Le signal d'une équipe resserrée, d'une équipe de combat, vous l'avez à midi ?
Je l'ai maintenant. Alors, simplement une remarque pour ne pas être désagréable, mais on n'a personne aujourd'hui en charge des entreprises, de l'artisanat, etc., du commerce. J'espère qu'on aura des secrétaires d'État ou au moins un secrétaire d'État, une secrétaire d'État qui seront annoncés la semaine prochaine, qui sera en charge de nos soucis.
Absolument. Pour la philosophie générale de cette équipe, Jean-Claude Mailly, pour ce qui concerne l'économie qui vous...
Oui, mais on jugera sur les actes. Je ne sais pas si moins de ministres ou plus de ministres, c'est mieux. Vous savez, moins de ministres, s'il y a plus de technos qui prennent les responsabilités, c'est pas forcément mieux. On verra. On jugera sur les actes. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, plus que la composition du gouvernement, c'est ce qu'a annoncé le président de la République en disant on continue comme avant. Et ça m'inquiète parce que, comme disait monsieur tout à l'heure, ça n'a pas été une réussite.
Si je peux me faire une remarque, on ne continue pas comme avant. On continue comme avant le 1er janvier. Parce que la ligne, elle a été changée le 1er janvier lors des vœux.
Oui, je parle du 1er janvier. Oui,
ben. Ah, pardon. Donc on conserve la ligne et c'est ce qui t'inquiète, me rassure.
Voilà. Voilà. C'est bien pour ça qu'on n'est pas d'accord.
Et merci en tout cas, mes complices, parce que tutoiement de rigueur. Merci,
oui, bien sûr.
Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière. Merci Jean-François Roubaud de la CGPME pour avoir diagnostiqué ce qui vous préoccupe, les nouveaux ministres de l'économie, des finances et du travail en l'espèce. Merci beaucoup. Alors vos avis nous intéressent. On continue à se prononcer sur le gouvernement resserré. Est-ce que vous approuvez le retour de Ségolène Royal, numéro 3 dans l'ordre protocolaire, Benoît Hamon à l'éducation, Montebourg à l'économie? Quelle est la nomination qui vous touche ou qui vous rassure le moins? Eh bien, vous nous dites tout à partir de 13h, édition spéciale sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1, il est 13h au cœur de cette édition spéciale. Voici le rappel de la nomination des membres du gouvernement. À vos côtés, Pierre de Villeneuve.
16 ministres dans le gouvernement. Valls, annonce faite il y a moins de 2 heures maintenant. David Doucan du service politique d'Europe 1, vous avez suivi cette annonce à l'Elysée, où l'on vous retrouve pour la liste des ministres, David.
Oui, avec Laurent Fabius qui conserve son rang de numéro 2 du gouvernement, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Benoît Hamon devient ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Christiane Taubira conserve son poste de garde des Sceaux. Michel Sapin, lui, devient ministre des Finances et des Comptes publics. Arnaud Montebourg, ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique. Marisol Touraine garde exactement le même périmètre aux Affaires sociales. Entrée de François Rebsamen au Travail, à l'Emploi et au Dialogue social. Jean-Yves Le Drian conserve la Défense. Bernard Cazeneuve devient ministre de l'Intérieur. Najat Vallaud-Belkacem aux droits des femmes, à la ville et à la jeunesse et au sport, un gros ministère. Marie-Lise Lebranchu conserve la décentralisation, la réforme de l'État et la fonction publique. Aurélie Fidipetti conserve aussi la culture et la communication. Quant à Stéphane Le Foll, il reste à l'agriculture, mais devient porte-parole du gouvernement. La radicale Sylvia Pinel obtient le logement et l'égalité des territoires. Et enfin, Georges-Paul Angevin remplace Victorin Lurel aux Outre-mer.
Merci David Doucan en direct de l'Elysée. Antonin André, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Pour vous, ce gouvernement Valls, c'est la victoire de François Hollande.
Oui, c'est un gouvernement Hollande. Les deux entrants, Ségolène Royal et François Rebsamen, les deux seuls entrants sont l'ex-compagne et l'ami de 30 ans. À l'intérieur, Manuel Valls ne voulait pas de François Rebsamen. Il aura Bernard Cazeneuve, c'est l'un des hommes en qui François Hollande a le plus confiance. Il l'avait même évoqué pour le secrétariat général de l'Élysée, qui est le poste le plus directement en contact avec le président. On continue, le porte-parole du gouvernement est désormais Stéphane Le Foll. C'est lui qui contrôlera et interprétera les décisions arbitrées par l'Élysée et mises en œuvre par Matignon. Terminons la démonstration par le maintien de Christiane Taubira à la justice, elle dont Manuel Valls à l'intérieur rêvait de se débarrasser. Conclusion politique de ce gouvernement où Manuel Valls n'a réussi à faire entrer aucun affidé. Le Premier ministre est ceinturé par les Hollandais. Dans le bras de fer qui se dessine déjà entre les deux têtes de l'exécutif, c'est bien le Président de la République qui garde pour le moment nettement la main.
Merci Antonin André, réaction politique. Tout ça pour ça, dit Jean-François Copé, qui compare la composition à un gouvernement de la 4e République. Dans le reste de l'actualité, au moins 6 morts, dernier bilan de ce très fort séisme au large des côtes du Chili. 8,2 sur l'échelle de Richter, 900 000 personnes ont dû être évacuées. L'autorité de la concurrence autorise de nouveau le rachat de D8 et D17, les deux chaînes de télévision, par Vivendi et le groupe Canal. Une cession stoppée il y a 4 mois par le Conseil d'État. PSG Chelsea au Parc des Princes ce soir. Quart de finale.
PSG.
Je vais y arriver. Quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1 à partir de 20h avec François Claus, Raymond Domenech et Guy Roux. Arrêtez de me faire rire, Wendy Bouchard.
Merci beaucoup, Pierre Devineau. La dégradation, chère Nathalie, qui s'amorce aujourd'hui par le sud, et bien ça s'amplifie demain dans notre ciel.
Exactement. Alors nous attendons des pluies qui vont se renforcer. Attention sur Midi-Pyrénées et Aquitaine. Je parle pour demain avec de bonnes chutes de neige, dites donc, sur les les Pyrénées à partir de 1600 mètres, mais oui, les nuages vont s'étendre sur tout l'ouest de la France, jusqu'au nord, l'Île-de-France, le centre et l'ouest du Rhône, mais les averses seront rares, vent encore soutenu en Méditerranée. Un petit peu plus à l'est, le voile va s'épaissir et les ondées menaceront. Les températures vont bien évidemment baisser là où nous aurons de la pluie et des nuages, c'est-à-dire surtout dans le sud-ouest. Par exemple, à Tarbes, on va perdre 6 degrés par rapport à cet après-midi. On n'attend plus que 12 degrés demain après-midi à Tarbes, seulement 14 degrés à Bordeaux, alors que cet après-midi, on en attend 21. Nous n'aurons que 15 degrés à Rennes, 18 à Montpellier, mais encore 20 degrés à Paris demain après-midi, 21 à Lille, 23 à Grenoble et 25 degrés à Strasbourg. Mais vous le voyez, on reste dans une masse d'air quand même relativement douce sous ce voile de nuages, notamment à l'est de la France.
Merci beaucoup Nathalie Rioua, il est 13h04.
Europe Midi, votre journal.
Édition spéciale, nouveau gouvernement.
Wendy Bouchard.
En direct, en public, vous avez la parole dans ce studio pour interpeller nos invités sur ces 16 ministres. On attend les secrétaires d'État, mais 16 ministres qui vont siéger au Conseil des ministres 20 heures après la passation entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls, ce qui est un gage de l'avis des commentateurs de rapidité et d'efficacité. On a l'impulsion, on a une partie de la troupe resserrée, et à nos invités politiques maintenant de réagir et aux auditeurs de prendre le micro. Les voici, nos invités politiques. Marie-Noël Lindemann, sénatrice socialiste de Paris. Madame, bonjour.
Bonjour.
Benoît Apparu, député UMP de l'Marne. Bonjour.
Bonjour.
Et François Michel Lambert, député Europe Écologie Les Verts des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour. Nous serons également en duplex avec Daniel Cohn-Bendit depuis Bruxelles et avec Thierry Mandon, porte-parole des députés socialistes. Je vais peut-être vous faire réagir immédiatement, avant d'entendre nos auditeurs sur la composition de ce gouvernement, aux mots que vient de dire Antonin André du service politique de Grand Pain. C'est un gouvernement Hollande. Il a fait rentrer Ségolène Royal, son ex-campagne. Il a fait rentrer Rebsamen, son ami de 30 ans. Est-ce que vous êtes aussi dur ou objectif que certains commentateurs, Benoît Apparu ?
Je pense que c'est vraiment pas la question qui se pose et le problème qui se pose. Entre nous, je suis pas convaincu que dimanche dernier, les Français aient demandé à François Hollande de faire un gouvernement valsien ou de faire un gouvernement hollandais. Ils s'en moquent comme de l'an 40. Et heureusement, d'ailleurs. Le message qui a été adressé dimanche dernier, c'est quoi ? C'est quelle est la ligne économique de l'État français, incarnée par le chef de l'État. Et la réponse du chef de l'État, c'est je fais un remaniement. C'est pas la question qui lui était posée.
Vous voulez changer le chef, alors évidemment c'est
non,
plus compliqué.
Non, pour ce qui me concerne, je considère, non pas qu'il faille changer le chef, le chef a été élu pour 5 ans, il est légitime pour 5 ans. La question que je posais pour ce qui me concerne à François Hollande, c'est quelle est votre ligne économique ? Or, il a d'abord changé le Premier ministre avant de parler.
On l'a
c'est pas.
Pas
malheureusement. Ben oui, pourquoi ?
Avec Arnaud Montebourg.
Qu'est-ce qui va se
Non, avec
je,
ne le... Sapin,
je crains
pas.
Que non. Qu'est-ce qui va se passer ? On va s'amuser les uns et les autres à faire des portraits des entrants et des sortants. Mmh. Ça va durer 15 jours. On va s'amuser avec ça. Dans un mois, on se reposera la même question. Quelle est la ligne économique du gouvernement ?
Marie-Noël Lindemann.
Oui, ben écoutez, le gouvernement n'est pas une grande modification par rapport au précédent. Il est restreint, hein, il est restreint, mais aussi il est restreint en termes politiques, puisque les écologistes n'y sont pas. Moi, je ne veux pas chercher à savoir la responsabilité de qui dans cette situation. Reste que le président de la République aurait sans doute dû faire les efforts nécessaires avant de choisir son Premier ministre et de préparer le gouvernement pour essayer de rassembler plus largement sa majorité. Parce que ce qui nous a fait défaut dimanche dernier, c'est quand même l'électeur qui avait voté François Hollande ne s'est pas déplacé pour... Oui. Il est mécontent, il attend, il attendait un changement.
La gauche, voilà. La plus radicale, elle s'affirme avec Benoît Hamon, qui hérite d'un grand ministère de l'Éducation nationale, ça vous satisfait ?
Bah, que Benoît Hamon, à titre personnel, est un grand ministère, c'est légitime, il a des qualités humaines, mais on ne peut en aucune façon dire que c'est une garantie à la gauche radicale, quand on voit que, ou pas radicale, la gauche du PS, moi je ne suis pas une gauche radicale, je suis gauche du PS, alors qu'on demande un changement économique, notamment sur cette fameuse question du pacte d'austérité européen, on met Michel Sapin aux finances, c'est-à-dire la pure consolidation de la ligne dite plan de pacte de restauration. Bah écoutez, moi c'est pas une question de personne, je voudrais savoir clairement si oui ou non on continue les politiques d'austérité.
Alors,
or manifestement, il y a aucun signe qui donne une inflexion significative. Il y a un petit peu quelque chose avec le pacte de solidarité, mais pas à la hauteur des problèmes.
Je voudrais qu'on entende un représentant d'Europe Écologie Les Verts puisque vous soulignez qu'en effet, il n'y a pas de ministre vert écolo au gouvernement. François-Michel Lambert, vous avez tiré un peu dans le tas ce matin parce que vous faisiez partie de cette délégation hier. Vous y croyez à ce poste, vous le souhaitiez à titre personnel, en tout cas je ne sais pas, mais pour le parti, et on ne vous a pas entendu.
Ah, c'est pas à titre personnel, c'est pour le parti. Ça fait 20 ans que je suis en politique et que l'on espère un jour
pouvoir gouverner notamment la politique énergétique. Et ce nous est proposé hier avec le Premier ministre que nous n'avons pas choisi, mais ça nous est quand même proposé d'avoir tout à la fois l'énergie, l'écologie, les transports. Et voilà que l'on refuse devant l'obstacle. Ce que nous faisons dans certains exécutifs locaux, ce que nous allons mettre en œuvre à Grenoble, eh bien nous le refusons ici. Je trouve que c'est incompréhensible et nous avons notre part dans ce gouvernement qui, finalement, ne répond pas aux aspirations des Français par rapport à l'image qu'il renvoie des 16 ministres choisis. On retrouve à peine deux nouveaux entrants, les autres 9 restent au même poste. Mmh. Je pense que le refus d'Europe Écologie a tari l'opportunité qu'avait le président de la République de créer une diversité dans
ce gouvernement. C'est pas faute de l'avoir souhaité du côté de Manuel Valls. Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, ça vous satisfait, ça vous rassure tout de même, François-Michel Lambert?
Moi, ça me rassure, c'est une personne d'expérience, pugnace, et maintenant moi j'ai un message à lui dire. Contrairement à ce que dit mon voisin Benoît Apparu, je crois que le message c'était pas la ligne économique qui était demandée, c'était la transformation de la société. C'est pas juste quel choix politique, quel curseur politique sur les économiques nous allons mettre en œuvre, mais comment nous transformons notre société, notamment face aux enjeux qui sont devant nous d'une énergie de plus en plus chère, face à nous de la disparition des ressources, face à nous du réchauffement climatique, face à nous de la décentralisation et une nouvelle démocratie. Tout ceci était sur la table. Tout ceci est sur la table. Alors je reviens sur Ségolène Royal. Eh bien, je lui souhaite d'aller le plus haut, le plus loin, le plus fort possible dans un intérêt collectif, dans l'intérêt de la France, bien au-delà de l'intérêt partisan des uns et des autres.
Daniel Cohn-Bendit, vous êtes avec nous en duplex de Bruxelles. Bonjour, Dani.
Bonjour.
Ségolène Royal, dans l'intérêt de la France et de l'Europe aussi, qu'est-ce que vous en dites, vous?
D'abord, moi, partant en voyant d'Europe, il n'y a pas de ministre de l'Europe.
Ouais, c'est exact. Affaires étrangères et développement international, mais pas.
Je crois que les problèmes européens sont d'une telle intensité et d'une telle complexité en ce moment que ça peut pas être, dirigé par d'un côté l'Élysée en ce qui concerne les grands sommets et puis Fabius avec vraisemblablement un secrétaire d'État. Je trouve que c'est une erreur. C'est aussi une erreur par rapport aux Français, c'est-à-dire de la démonstration de l'importance de l'espace européen. Alors on peut critiquer les politiques européennes. Marie-Noël le fait souvent. Tout ça, c'est une chose, mais on ne changera, et la France ne changera les choses ou participera au changement en Europe que si elle s'implique totalement. Et le fait qu'il n'y ait pas de ministre de l'Europe, ça ne veut pas dire qu'on s'impliquera totalement.
Oui, monsieur en studio opine du chef depuis tout à l'heure sur à la fois les Verts et sur l'Europe, ce que vient de dire Dani Cohn-Bendit. Vous voulez prendre la parole.
Sur l'Europe, je suis totalement d'accord avec Dani Cohn-Bendit, c'est complètement invraisemblable. Mais j'aimerais revenir sur ce que disait monsieur Lambert. Vous avez parlé de la transition énergétique, mais assez peu du fond et de la politique économique du gouvernement. Or, c'est sur ça que Europe Écologie Les Verts sort du gouvernement. Il y avait notamment le pacte de responsabilité, c'est 50 milliards d'euros. Le Parlement d'Europe Écologie Les Verts, si j'ai bien compris, avait dit qu'il était contre, avait demandé un changement de cap. Hollande ne l'a pas donné. Il y a aussi les objectifs de réduction de déficit de plusieurs milliards qui vont être nécessaires encore. Mais comment est-ce que dans ce contexte-là, on aurait pu financer la transition énergétique et quelle aurait été la marge de manœuvre d'un éventuel ministre écolo à l'écologie? Parce qu'avoir un portefeuille, ça ne fait pas tout, il faut encore avoir les moyens. Est-ce que moi personnellement je trouve que la décision d'Europe Écologie Les Verts a été courageuse et elle est plutôt basée sur le fond plutôt que sur les questions de stratégie politique.
Alors il y a Dani Cohn-Bendit qui veut vous répondre, Antoine, parce que
je crois qu'il pose la bonne question et moi j'en ai quand même assez. Et là, je suis pas d'accord avec mon parti ou avec Marie-Noël de dire que le problème de la politique économique, c'est l'austérité. On a un budget qui est un déficit de 4,2% maintenant.
4,3.
Non, on est aujourd'hui à 4,2.
Oui, mettons, d'accord.
La France aujourd'hui ne tient pas les 3%.
Mais bien sûr.
Donc ça devait aller parfait. La France ne tient pas les 3%. Donc la France devrait aller très bien. La France n'a pas tenu les 3% pendant les années. On simplifie le problème. Moi, je crois. Enfin, je veux dire, ce que je comprends pas, c'est que d'un côté, vous avez l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui qui va avoir un budget équilibré. Chaque mois, le chômage baisse. Alors vous allez me dire, il y a des inégalités. Oui, l'Allemagne va introduire un salaire minimum. Oui, il faut que tu changes choses en Allemagne. Mais c'est quand même incroyable que les rentrées fiscales augmentent,
le chômage baisse et on est à un budget équilibré. Peut-être qu'il faut que la France devrait changer aussi un peu son disque dur, que ce n'est qu'en faisant des déficits qu'on fait une bonne politique plus sociale économiquement.
Nous sommes dans une édition spéciale.
Je ne comprends pas cette histoire.
Marie-Noëlle Lienemann est avec nous pour le Parti Socialiste. Dany Cohn-Bendit, François-Michel Lambert veut répondre à ce propos. Et ensuite, on va accueillir Laurence et Guy qui nous appellent au 3921 pour réagir à tout cela.
Moi, je trouve ça assez extraordinaire, la position de mon parti. On a aussi un pacte de solidarité qui a été annoncé. On a la possibilité, après la claque de ce week-end et où Europe Écologie Les Verts ressort renforcé, de peser au sein du gouvernement bien plus qu'à l'extérieur. Je ne vois pas comment on va peser à l'extérieur. Et nous avions tout à fait la possibilité de faire une sorte de CDD avec le gouvernement, avec du balisage sur les 6 prochains mois et demander des rendez-vous et des engagements très précis. Et si au bout de 6 mois, le gouvernement, les actions n'étaient pas, eh bien nous sortions. Et là, c'était beaucoup plus puissant refuser de rentrer. C'est un jugement d'a priori qui n'est pas dans l'essence même de l'écologie, là dont je suis
pas tel que vous la concevez,
depuis
en tout
22
cas.
Ans.
Rita sur Facebook nous dit la même chose. Ils auraient au moins dû essayer, les Verts, ils pouvaient toujours démissionner par après. Alors, on s'intéresse à la composition de ce gouvernement. On a évoqué l'absence de ministre vert, mais beaucoup d'autres sujets sont intéressants à regarder. Aujourd'hui, il y a quelques cautions de gauche. On en parlait notamment Benoît Hamon, le retour de Ségolène Royal, Monsieur Cazeneuve, soldat de Bercy, qui arrive maintenant à l'intérieur. Et nous avons Laurence qui veut réagir parce que vous considérez, comme un auditeur précédemment, que finalement, ce gouvernement ne change pas grand-chose. Bonjour Laurence.
Oui, bonjour. Oui, en effet, je trouve que vraiment ce sont les mêmes têtes. Et puis, on a une sensation de bonnet blanc et blanc bonnet. Finalement, le seul vrai changement, c'est le Premier ministre. Et au final, on ressent ça comme un camouflet pour Jean-Marc Ayrault, qui est finalement le bouc émissaire de l'échec de Hollande. Voilà.
Benoît, parmi d'accord avec vous, Laurence.
Oui, c'est ce que j'évoquais. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La question elle a été posée à François Hollande, pas à Jean-Marc Ayrault. Et effectivement, aujourd'hui, Jean-Marc Ayrault est clairement le bouc émissaire de François Hollande. Là encore, nous attendions, je crois, peut-être avec des orientations différentes et des choix politiques différents pour ce qui concerne Marie Lehmann ou moi, dans une direction ou dans l'autre, mais une clarification de la ligne politique et économique. Ce que vient de dire Dany Cohn-Bendit est très intéressant, même si là encore, on ne le partagera pas forcément sur le fond les uns et les autres. C'est effectivement, pourquoi s'obstiner en France à se dire en permanence « oui, oui, gardons notre niveau de déficit et allons négocier avec Bruxelles un niveau de déficit supérieur » alors que ça fait des années qu'on a le déficit en question sans avoir les résultats économiques. Mmh. Et on a à côté de nous un modèle qui effectivement fait l'équilibre, fait des rentrées fiscales et du coup pourra avoir une politique sociale beaucoup plus ouverte. Mais d'abord les rentrées d'argent, ensuite les dépenses.
Marine
en France,
Lehmann.
On s'inscrit à vouloir faire l'inverse.
Oui, alors moi, vous savez, je crois quand même que le vote des Français, ça compte. On a vu des... Alors d'abord, je suis d'accord avec Daniel Cohn-Bendit.
Si c'est le vote des Français, ils ont plutôt voté à droite.
Non, mais ils n'ont pas voté pour les élections législatives. Hein. Même si, personnellement, je pense qu'il y a une alerte majeure. Hein. Une alerte majeure. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on a pris des engagements devant les Français. Je suis d'accord avec Dany Cohn-Bendit sur le fait que ce serait bien qu'il y ait un ministre de l'Europe. Parce que j'ai été député européen, vice-président du Parlement européen. Et si on n'est pas hyper présent tout le temps, en amont,
surtout
c'est nécessaire.
Surtout à un mois et demi des élections européennes.
Mais indépendamment, c'est nécessaire. En revanche, sur quoi les Français ont voté? Des engagements pris par François Hollande. Réorienter l'Europe, modifier et compléter le traité constitutionnel. Non à la modélisation à l'allemande. C'est quand même ça qui a été dit. On n'est pas sur l'austérité
Merkel. Ils ont voté pour le pouvoir d'achat, pour la lutte contre le chômage, peut-être après pour la constitution européenne.
Non, non, c'est pas une question de constitution, c'est une question de ligne politique. La croissance avant l'austérité. On n'a jamais été élu en France pour faire la politique d'austérité. Alors maintenant, est-ce que les déficits publics, c'est pas une question secondaire? Je suis d'accord. Il y a des tas d'aides aux entreprises qui ne sont pas ciblées, qui sont inutiles et qui coûtent cher. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a ici ou là des gaspillages.
Est-ce que vous voterez, la confiance ou pas, nous demande Magdala sur Twitter, Marie-Noëlle Lienemann.
Écoutez-moi, pour l'instant, je voudrais d'abord savoir sur quoi on me demande de voter. Parce que pour l'heure, je n'ai pas le contenu du discours de Manuel Valls et de son gouvernement, de son programme d'action. Mais je le dis tout net, on ne donnera pas un blanc-seing à la poursuite de la politique telle qu'elle était et qui nous a emmenés dans le mur et qui déçoit massivement les Français.
Merci
et en tout cas,
beaucoup.
Au moins ceux de gauche.
Alors on poursuit cette édition spéciale avec nos invités Benoît Apparu pour l'UMP, François-Michel Lambert Maire, député Europe Écologie Les Verts des Bouches-du-Rhône, Danny Cohn-Bendit en duplex de Bruxelles, Marine-Noëlle Lienemann, Thierry Mandon du Parti Socialiste va nous rejoindre. Les auditeurs réagissent, ont la parole sur ce gouvernement. Change-t-il quelque chose? Quelle est la personnalité que vous soutenez? Celle qui ne vous rassure pas dans ce gouvernement? Jusqu'à 13h30 et après, les grandes voix nous rejoignent. À tout de suite.
Europe Midi, votre journal.
Édition spéciale, nouveau gouvernement.
En public et en direct avec le public qui réagit à la composition de ce nouveau gouvernement. 16 membres, deux entrants, Ségolène Royal et François Rebsamen. Pas d'énormes changements, si ce n'est le maintien à la justice de Christiane Taubira. Et voilà sur quoi vous réagissez. Vous nous dites quelle personnalité vous rassure, quelle personnalité aurait dû partir et si vous auriez souhaité un changement un peu plus ancré. Benoît Apparu, député UMP de la Marne, vous êtes avec nous. En quoi vous sentez la personnalité, la marque de Manuel Valls dans ce gouvernement, si vous la sentez toutefois?
Moi, je sens rien, j'ai rien à sentir sur le sujet. Là encore, ils se débrouillent les uns et les autres avec leur casting, c'est leur problème, c'est la marque qu'ils veulent installer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi faire. Derrière, sincèrement, entre nous, savoir s'il y a la marque de monsieur machin, de monsieur bidule, si c'est du Made in France ou pas, je pense sincèrement que tous ceux qui ont voté dimanche, j'entends bien, c'était par rapport à la marque, vous savez, c'est un jeu de mots, par rapport à monsieur Montebourg, tout ça, etc., etc. Je pense que tout le monde s'en moque complètement. Ça vous intéresse, vous? Ça nous intéresse, nous, en jugement purement politique, mais tout ça sera totalement oublié.
Ça intéresse Dany, quand même.
Tout ça sera totalement oublié dans un mois, et dans un mois, dans deux mois, dans six mois, la question que se poseront les Français, c'est là encore. Est-ce que j'ai
les
du boulot?
Du chômage?
Est-ce que j'ai du pouvoir d'achat?
Déficit.
Comment va l'économie française? Où en sont les déficits?
Dany Cohn-Bendit.
C'est ça les questions. Le reste est très secondaire.
Donc c'était une mauvaise question de ma part, Dany Cohn-Bendit.
Je ne serais pas permis de dire une chose pareille, voyons.
Vous l'avez bien tourné.
Moi, écoutez, là où tout le monde a raison, ce gouvernement est le gouvernement. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, là où je ne suis pas d'accord, par exemple, avec Marie-Noëlle Lienemann, le pacte des responsabilités, c'est-à-dire de faire que les entreprises soient capables justement de générer de l'innovation et donc de générer du travail, c'est important. Donc la politique de l'offre, c'est important. On le voit bien quand on voit toute la situation des petites et moyennes entreprises allemandes qui sont le moteur justement, les petites et moyennes, le moteur de ce qu'on appelle la « success story » de l'emploi en Allemagne. C'est pas la modélisation, Marie-Noëlle.
Non, mais
c'est
moi, je suis d'accord avec toi sur l'innovation.
Alors,
Daniel,
on va avancer
le problème,
parce que
il n'est pas là. Il est que l'argent qu'on va mettre dans le fameux CICE, ça va à Auchan, Carrefour, La Poste, etc.
Crédit impôt compétitivité.
Alors, Marie-Noëlle, on ne cible pas les aides. D'accord. On est d'accord.
François-Michel Lambert,
voilà
et après on avance
le vrai
sur la
problème.
Personnalité des nouveaux ministres. François-Michel Lambert.
Tout d'abord, il y a, on juge par avance. Nous, dans la négociation que nous avions encore hier avec Manuel Valls, il était abordé justement les conditionnalités des aides que nous allions apporter aux entreprises et ne pas les orienter sur des entreprises qui ne sont pas créatrices d'emplois. Donc on voit bien qu'on avait des marges de manœuvre, sauf qu'en refusant d'y rentrer, nous ne les avons plus. Concernant la personnalité, moi je reviens sur...
Vous avez un groupe parlementaire encore.
Est-ce qu'il tiendra?
Est-ce qu'il
tiendra? En tout cas, moi je dis que le groupe parlementaire, eh bien, on doit prendre nos responsabilités et être à fond derrière ce gouvernement, parce qu'on n'a pas été élu pour jouer l'intérêt de l'un ou de l'autre, l'intérêt d'un parti ou d'un autre. Et comme j'ai déjà dit, je le redis, je souhaite ardemment que Ségolène Royal, notamment, aille le plus haut, le plus loin, le plus vite possible dans tout ce qu'il faut transformer, notamment en termes de création d'emplois.
Je sens que vous allez devenir directeur de cabinet de Ségolène Royal.
Oui, en termes de transition énergétique, eh bien, si c'est pas ça qui est important. Ce que je souhaite, c'est que l'Allemagne, ils ont 300 000 emplois dans la transition énergétique. Nous, on en a 10 000. Eh bien, je souhaite que Ségolène Royal nous mette là-dedans et qu'à la fin, mon parti soit ringardisé pour son refus d'avoir participé et d'avoir mis les mains dans le cambouis. Je le dis très simplement.
Eh bien, vos mots sont forts et merci de les livrer sur Europe 1, François-Michel Lambert, pour Europe Écologie Les Verts des Bouches-du-Rhône. Nous avons Geneviève qui nous rejoint au standard au 39-21. Dites-nous ce que vous pensez de la composition de ce gouvernement et de ces changements, ou pas de ces changements. Geneviève, bonjour.
Oui, bonjour. Changement, oui, pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent au gouvernement, mais changement pourquoi ? Et je rejoins tout à fait tout ce que disaient les personnes avant moi. d'accord pour faire un changement, mais il faut que ça serve à quelque chose, que ça donne du travail, que ça donne de l'emploi à tous, une réduction d'impôts, évidemment, si on veut relancer l'économie, et surtout la sécurité. Madame Taubira, qui reste au gouvernement, moi, ça me choque beaucoup, parce que d'abord, on a vu qu'elle ne s'entendait pas vraiment avec Monsieur Valls, qu'elle lui reprochait beaucoup d'avoir des positions très tranchées vis-à-vis de l'invasion qu'on a des Roms, etc. Mmh. Et je ne pense pas...
Vous dites invasion, ce mot vous appartient.
L'invasion des Roms, là, n'a
rien. Oui,
on est envahi, oui, ben c'est ça.
Geneviève, en tout cas...
Si c'est ça une invasion, qu'est-ce qu'a été le 39
Geneviève, alors vous êtes rejoint par Corinne, parce que Corinne nous dit, voilà, le maintien de Taubira, pour moi, est un scandale. Je ne parle pas du retour de Ségolène Royal, elle est virulente. Le reste n'est que du réchauffé. Je ne donne pas 6 mois à ce gouvernement pour éclater.
Malheureusement, oui. Je ne souhaiterais qu'une chose. J'ai des enfants qui sont en âge de travailler et je ne souhaiterais qu'une chose, c'est que ce gouvernement réussisse pleinement. C'est mon
but. Alors, il faut le soutenir.
Alors, Geneviève et Corinne, justement, sur la même ligne, on va faire réagir Thierry Mandon immédiatement à la perplexité de certains de nos auditeurs sur le maintien de Christiane Taubira. J'avoue que c'est ce qui revient beaucoup et par mail et au standard. Bonjour Thierry Mandon.
Bonjour.
Porte-parole du Parti Socialiste des députés, socialiste Christiane Taubira, garde des Sceaux, qui reste donc ministre de la Justice. Est-ce que vous comprenez que cela puisse choquer? Puisqu'on voulait du changement, je me fais porte-voix des Français ici.
Oui, mais bon, d'abord, il faut avoir à l'esprit qu'on est sur l'armature politique du gouvernement et pas sur la composition intégrale du gouvernement. Ils vont se rajouter, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de secrétaires d'État.
Qu'est-ce que ça change au fait que Christiane Taubira reste garde des Sceaux?
Ben, ça change une chose qui est simple, c'est que, à l'évidence, la feuille de route entre Manuel Valls et Christiane Taubira a été clarifiée. On n'imagine pas une seconde que Manuel Valls, le président de la République, ait renommé Christiane Taubira sans être d'accord sur ce que serait la politique en matière de justice, en matière de liberté publique dans les années qui viennent. Et donc la bonne question, ce sera ou à Manuel Valls mardi ou à Christiane Taubira à qui il faudra la poser pour connaître cette feuille de route. Mais il est évident que ce choix veut dire qu'un certain nombre de décisions ont été arrêtées et qu'on sait précisément où on va.
Très bien, on continue le questionnement des auditeurs. On a un jeune homme en studio pour vous, Thierry Mandon, ou pour Dany Cohn-Bendit.
Monsieur Cohn-Bendit, voilà. Même si je suis plus de droite, je l'aime beaucoup ce monsieur. Et donc j'ai une question très simple pour lui. Est-ce que si François Hollande ou Manuel Valls avaient proposé à M. Cohn-Bendit de devenir ministre de l'Europe ou ministre de l'écologie, d'un grand ministère de l'écologie, est-ce qu'il aurait accepté?
Bon, d'abord, il y a quelqu'un qui a dit avec raison, je suis pas français. Deuxièmement, j'ai décidé dans ma vie politique de ne pas devenir ministre. Ça fait 30 ans que je ne veux pas, parce que je crois que j'ai une autre fonction dans la société. Tous ceux qui font de la politique ne doivent pas devenir, n'ont pas vocation à devenir ministre. Je suis une personne qui n'a pas vocation à être ministre. Il y a des gens qui font ça très bien. Je dirais sur Christiane Taubira, il faut arrêter. S'il y a un problème aujourd'hui d'une certaine immigration, il est européen. Ça n'a rien à voir avec Madame Taubira. Ça n'a même rien à voir avec Monsieur Valls. Et j'en ai assez aujourd'hui qu'on personnalise sur Christiane Taubira quelque chose qui est un problème qu'on peut résoudre si on arrêtait d'avoir des préjugés. Enfin, vous n'allez pas me dire que 70 000 Roms en France, c'est un problème insoluble. Ça, je suis prêt à devenir le haut-commissaire des Roms pour résoudre ça en 3 mois.
Merci, Dany. Un dernier petit mot de François-Michel Lambert. 10 secondes.
Un dernier mot. J'en ai marre de cette culture française du faire du bashing en permanence. Les Italiens ont un nouveau type de gouvernement, eh bien ils ne tapent pas comme des abrutis, pardon d'utiliser ce terme, dès que les gens sont nommés, ils attendent un tout petit peu de voir ce qui va être mis en œuvre, et c'est ce que je veux aujourd'hui, parce que ce qu'il y a derrière, c'est la vie de nos Français. Alors arrêtons de taper sur ceux qui sont au gouvernement, laissons-leur le temps.
Merci beaucoup, merci Marie-Noëlle Lindemann pour le Parti Socialiste et Thierry Mandon nous avoir rejoints. On se retrouve dans une petite poignée de minutes avec les grandes voix d'Europe, hein, Michel Cotta, Catherine Ney, Robert Namias et Gérard Carrérou. On tire les grands enseignements de cette nouvelle équipe, et là encore, vous réagissez, vous témoignez. À tout de suite.
Europe Midi, votre journal.
Édition spéciale, nouveau gouvernement.
Wendy Bouchard.
En direct et en public, nous avons regardé la ligne économique, politique que pouvait insuffler cette nouvelle équipe, ces 16 ministres à parité respectée. On va maintenant voir en fonction des personnalités comment ça peut l'être et si l'alchimie peut prendre, vous qui connaissez si bien ces hommes et ces femmes politiques. Robert Namias, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Catherine Ney, les grandes voix d'Europe 1 jusqu'à 14h avec nous, avec le questionnement encore une fois du public, parce que cela nous fait avancer dans la réflexion, et même des enfants. parce que nous avons quelques enfants le mercredi et eux aussi ont des questionnements politiques et ils vivent ce remaniement avec nous. Et je sais que vous êtes grande pédagogue, Catherine Nebout par exemple, vous aurez la parole. Bonjour Catherine, bonjour Robert, Gérard et Michel.
Bonjour
à vous. Alors d'abord on va revenir sur l'idée d'un gouvernement resserré, paritaire. Alain Juppé dit rien ne change en gros sauf Ségolène Royal, il a raison Catherine Ney.
Oui, il y a aussi Rebsamen. Enfin, rien ne change. Mais enfin, ce qui est nouveau, c'est que c'est un gouvernement restreint. C'est-à-dire qu'il y en a moins. Et ça va déjà donner l'impression que les choses étant plus resserrées, il y a un peu plus d'or. Donc moi, et de toute façon, le gouvernement précédent, il y avait encore des ministres quand on les voyait sortir du Conseil des ministres, on ne savait pas qui c'était. Donc, reste dans le fond des gens qui sont le plus connus. Et dont on peut dire qu'ils sont peut-être le plus aptes à gouverner dans les purs socialistes. Parce qu'on disait toujours, il manque des poids lourds. Mmh. Mais vous avez remarqué que il n'y a pas eu un ministre nouveau qui a été nommé venant du groupe parlementaire actuel. Donc c'est peut-être que le gouvernement estimait qu'il n'y avait pas assez de poids lourds dans le groupe socialiste.
En revanche, on
a nommé un sénateur, François Rebsamen, qui est l'ami intime depuis toujours de François Hollande.
Ministre du Travail et de l'Emploi.
Et Ségolène Royal, qui n'est pas parlementaire et qui est présidente de région.
Ministre de l'écologie, du développement durable, Laurent Fabius garde son poste, Benoît Hamon est à l'éducation, Christiane Taubira garde des sceaux, Michel Sapin ministre des Finances, Arnaud Montebourg hérite du grand ministère de l'économie et du redressement productif, Marisol Touraine ministre des Affaires sociales, on nous demandait, il n'y a pas de santé, si évidemment c'est dans ce ministère, la santé, Jean-Yves Le Drian reste à la défense, Bernard Cazeneuve à l'intérieur. C'est vrai, beaucoup de poids lourds, beaucoup de personnalités, vu comme ça, l'alchimie peut prendre, Bernard Mias, entre tous ces gens-là.
Écoutez, en tous les cas, moi je suis assez en désaccord avec ce que j'entends comme commentaire à la fois journalistique et politique depuis 2 heures. Nous sommes dans un contexte très particulier, extrêmement difficile pour François Hollande et le nouveau Premier ministre Manuel Valls. Contexte presque impossible. Eh bien, dans ce contexte presque impossible, moi je trouve que, au fond, ce gouvernement répond à un certain nombre d'urgences. Première urgence, la crédibilité et l'autorité. De ce point de vue-là, il est clair que d'une part avec Manuel Valls et d'autre part avec ceux qui composent aujourd'hui le gouvernement, on peut imaginer, on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de couac, voire plus de couac du tout. Bon, ça c'est le premier point. Deuxièmement, l'autorité. Incontestablement, le Premier ministre a une autorité et les ministres qui sont autour de lui, certains ont déjà beaucoup d'expérience, ont une autorité qui ne ressortait pas du précédent gouvernement. Troisièmement, l'amateurisme, car l'un des problèmes, et nous ne sommes pas dans la surface des choses, on a beaucoup dit que ces élections ont aussi été perdues pour des tas de raisons de toute nature, mais d'abord parce que l'exécutif n'avait plus aucune crédibilité, à commencer par le président de la République, mais bien évidemment le gouvernement composé d'amateurs. Là, quand vous regardez, alors on peut pas dire tout et son contraire, et Catherine n'a pas tort, il n'y a peut-être pas beaucoup de poids lourds en effet au PS, mais en tous les cas, quand vous regardez le gouvernement, c'est un gouvernement
professionnel.
De professionnels, soit qu'ils sont devenus depuis 2 ans, soit que c'était des vrais professionnels auparavant. Donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve que c'est, dans un contexte, encore une fois, quasi impossible, plutôt réussi.
Gérard Carrérou, votre sentiment ?
Mon sentiment, première lecture, première approche, j'ai un peu celle d'Alain Juppé, tout à l'heure, au volant de sa voiture, en partant d'une réunion, en disant, on prend les mêmes, oui. C'est un peu ce que, d'ailleurs, beaucoup de Français vont se dire.
Ce qu'ils nous ont dit, d'ailleurs, depuis tout à l'heure.
14, oui, je ne les ai pas tous entendus, mais 14 sur 16, qui étaient déjà... Donc, on prend les mêmes et on recommence, ça, c'est ce qu'on dit pour les équipes de foot ou autre. Et on essaye, mais bon, là, on prend les mêmes, mais on va essayer de faire mieux... Ou au moins de faire moins mal. Et ce qu'a dit Robert est juste sur les couacs probablement réduits, un sentiment d'autorité, etc. Tout ça, je suis d'accord avec lui. Mais moi, en deuxième phrase que je voudrais donner, si vous voulez, j'ai vraiment compris le remaniement de cette manière. Jean-Marc Ayrault est bien dans cette affaire qui dure depuis les élections municipales. Jean-Marc Ayrault est bien le bouc émissaire de l'échec des 2 ans de François Hollande. Il est véritablement là. Et quelque part, cet homme que j'ai beaucoup critiqué avec vous, là, dans diverses émissions, j'avais un peu de sentiment, quelque part, je comprenais un peu son amertume au moment de la passation de pouvoir, car il est vraiment le bouc émissaire. On lui a fait... Alors, il a eu des défauts, il a été certainement pas assez ferme, il a pas tenu tout ce qu'on veut, mais il est dans la Ve République...
Qu'est-ce que vous auriez souhaité, Gérard, qu'il reste et qu'on change l'équipe ?
Non, je ne dis pas ça, je constate, et je constate troisième chose, et je m'arrête là, troisième chose, c'est que C'est pas un hasard si, au fond, on a souligné et on a rappelé que Valls était un rocardien. Et eh bien, je dirais, quelque part, avec toutes les différences, il ressemble un peu à la situation de Michel Rocard, nommé Premier ministre par François Mitterrand dans une situation difficile. Mmh. Et je crains pour lui qu'il n'ait un destin qui finisse de la même manière. Voilà ce que je peux dire.
Mmh. Mais il a duré trois ans, Rocard, il a fait de très grandes
choses. Michel Cotard.
Hein,
oui, mais je comprends effectivement ce que vient de dire Gérard, encore qu'il est celui qui, parmi nous, a le plus, je crois, critiqué Jean-Marc Ayrault. Enfin, c'est la loi de la Ve République. Voilà. On sait que quand ça ne marche pas, on débranche le Premier ministre quand il y a un court-circuit. Alors, moi, je fais absolument l'analyse de Robert à cette nuance près que je trouve qu'il y a des équilibres qui vont être assez difficiles à respecter.
Ah, ça c'est intéressant. Alors lesquels ?
Naturellement, Benoît Hamon représentant la gauche du parti. On voit très bien comment cette gauche avec Montebourg a été maintenue et même est montée en grade en quelque sorte, puisque Montebourg a un grand ministère. Et d'autres qui n'ont pas ce côté entre guillemets gauchistes, et qui sont les proches de Manuel Valls. Mais j'ajoute que celui qui me paraît le plus à même de régler cet équilibre, c'est bien Manuel Valls. D'abord parce que c'est tout de même le plus populaire parmi les ministres. Hein. 6 Français sur 10 sont d'accord avec sa nomination. Deuxièmement, parce que c'est un gouvernement resserré. Et ça aussi, vous avez dit tout à l'heure que les gens disent c'est les mêmes. Mais bon, c'est les mêmes, mais c'est moins les mêmes parce qu'il est resserré. Mmh. C'est un gouvernement qui a décidé d'aller vite, puisque le discours de politique générale sera mardi prochain, ce qui est une accélération. Donc c'est quelque chose qui correspond quand même à la personnalité de Manuel Valls, à lui de faire que la gauche de la gauche et la droite de la gauche, si j'ose dire, cohabitent. Voilà. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la notion de cohabitation. François Hollande ne l'a pas nommé comme François Mitterrand avait nommé Michel Rocard. François Mitterrand avait nommé Rocard avec l'impression qu'il ne durerait qu'un an. Or là, c'est quand même, on l'oublie, Manuel Valls qui a fait la campagne de François Hollande. Pas seulement son directeur de commission, qui est devenu, à la place de Moscovici, son directeur de cabinet et son directeur de campagne.
Michel Cotard. Donc c'est important qu'il se retrouve à ce moment-là.
Je pense que la vraie chance, comme dit Michel Rocard, la vraie chance du gouvernement, c'est Manuel Valls. Voilà.
Michel Cotard, si Robert Damias, si Catherine Ney, Gérard Carrérou. Je voudrais qu'un auditeur nous rejoigne parce qu'il nous écoute, Michel. Guy, depuis très longtemps. Oui. Attendez, Gérard. Oui. Guy qui nous appelle de Seine-et-Marne et qui veut réagir à la composition de ce gouvernement. Les grandes voix vous écoutent et iront dans votre sens ou pas. Bonjour Guy, qu'en pensez-vous ?
Bonjour. Bonjour, je me sens un peu schizophrène aujourd'hui parce que je suis un homme de gauche socialiste et je suis heureux des promotions de Madame Royal, de Monsieur Hamon et de Monsieur Montebourg. Mais en tant que citoyen, démocrate et pragmatique, je déplore le choix de préserver cette aile gauche qui pouvait certes faire défection dans les votes, mais les marchés, l'Europe, les entreprises et surtout les électeurs lors des élections municipales, même si on tempère, parce qu'on sait très bien que les élections intermédiaires sont forcément défavorables au pouvoir en place. Tout cela, je pense qu'ils voulaient un virage à droite. Donc, à mon avis, on a tout faux. Nous, les socialistes, on a tout faux. Mais je souhaite quand même bonne chance à Manuel Valls. Voilà.
Merci Guy, mais c'est un témoignage intéressant. Vous considérez que les citoyens attendaient un virage à droite qui n'est pas assez marqué. Et même Manuel Valls corrige un peu le tir droitier, en effet, avec Arnaud Montebourg, avec Benoît Hamon notamment, Gérard Carrérou.
Oui, c'est un virage à droite de par la personnalité du Premier ministre, Manuel Valls. Mais si on regarde attentivement, et on le verra quand on aura d'ailleurs l'ensemble des secrétaires d'État, si on regarde de près, on s'aperçoit que c'est quand même un gouvernement issu de la méthode Hollande, du compromis, car effectivement, il y a un renforcement. Je vais prendre un seul exemple, pour ne pas faire de la théorie, mais faire vraiment. Il y a l'exemple de Bercy. On avait critiqué Bercy en disant « Bercy, c'est épouvantable, c'est 7 ministres, c'est une rigolade dans ce bunker de Bercy. » Et c'est vrai que ça avait provoqué beaucoup de dysfonctionnements, de couacs, etc. Alors on dit là « Ah, ça y est !» ils ont compris la leçon, admirable, on dit certains, enfin presque ça. Il n'y a plus que deux ministres qui sont deux personnalités relativement fortes, enfin respectées en tout cas, qui sont Sapin et Montebourg. Très bien. C'est vrai, Sapin a été un ministre, il n'a pas eu de chance avec le chômage, mais bon, c'est quand même un bon ministre. Et Montebourg, il a aussi fait quelques performances, il a fait des erreurs, mais des performances. Mais on s'aperçoit que les deux représentent très exactement deux lignes politiques. Mmh. Donc en fait, on n'a plus sept ministres de cacophonie à Bercy, mais on a deux ministres importants qui sont dans deux lignes différentes.
Allez, il y en a un qui... Robert Namias là-dessus.
On pourrait...
Oui, Robert.
Écoutez, moi je pense que c'est, et chacun en conviendra, c'est le gouvernement de la dernière chance pour François Hollande. C'est même assez étrange d'être dans cette situation au bout de deux ans de quinquennat, mais c'est ainsi. C'est le gouvernement de la dernière chance avant vraisemblablement des décisions beaucoup plus drastiques, voire une dissolution si ce gouvernement ne fonctionnait pas ou était renversé. Par contre, ça peut fonctionner. Et moi je dirais simplement une chose, on verra mardi prochain le discours de politique générale. On verra comment ça se passe dans les semaines qui viennent en termes de négociations sociales, de la mise en place du pacte de responsabilité, etc. Aujourd'hui, nous parlons d'un gouvernement. Je considère que, honnêtement, ce gouvernement, qui est dirigé par un socialiste qui avait quand même une image de droite et qui peut faire une politique économique qui sera, en tous les cas, qui ne déplaira pas au marché, même si Bercy peut encore poser des problèmes, il en pose beaucoup moins qu'il n'en posait il y a encore quelques jours, mais qui en même temps donne des gages à la gauche et également, et beaucoup même, aux écologistes, eh bien, finalement, ce gouvernement se donne quand même des chances de réussir quelque chose. Et de ce point de vue-là, c'est presque surprenant. Honnêtement, le fait qu'il ait été composé en 36 heures, vous savez qu'il y a des tas de gouvernements, il fallait 3-4 jours, c'était devenu n'importe quoi.
Bon, on n'a pas la liste des secrétaires d'État.
Mais d'accord, mais ça donne une image d'autorité et d'assurance, alors que précisément, c'était le défaut majeur de ce pouvoir politique depuis deux ans.
Les grandes voix sont avec nous jusqu'à 14 heures. Gérard Carrérou, Catherine Ney, Michel Cotard, Robert Namias, vous avez entendu à l'instant, vous participez à cette réflexion. Vous nous dites ce que vous pensez de ce gouvernement et s'il est en effet un gouvernement pour vous de professionnels capables de tenir ce cap, ce gouvernement de la dernière chance. Nous avons des élèves de l'école élémentaire République qui sont en CM2 à Paris dans le 11e. Ils ont aussi des questions pour vous, des questions de jeunes et futurs citoyens. On est ensemble et on vous donne la parole. À tout de suite.
Europe Midi, votre journal.
Édition spéciale, nouveau gouvernement.
Wendy Bouchard.
En direct et en public jusqu'à 14h avec les grandes voix d'Europe 1, Robert Namias, Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carrérou. On réagit à la composition que l'on connaît en deux temps. Donc d'abord de ces 16 ministres du gouvernement conduits par Manuel Valls et la semaine prochaine les secrétaires d'État. Alors Robert Namias vient de dire c'est un gouvernement de professionnels, ce sont des poids lourds. Catherine Ney, est-ce qu'il est en capacité ce gouvernement de s'imposer, de réussir si c'est le gouvernement de la dernière chance?
Mais on le verra, mais en tout cas moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est la mission qu'a donnée François Hollande l'autre soir et qui est basée sur beaucoup d'irréalisme. Quand François Hollande dit « Je suis arrivé, si nous n'avions pas redressé le pays aurait continué à s'enfoncer ». C'est imaginer qu'il a redressé le pays. Or, tous les chiffres montrent que c'est le contraire. Tous les comptes sont au rouge. Le chômage ne s'est pas amélioré. Les déficits se sont accentués, comme la dette. Donc, il croit déjà qu'il a réussi cela. Lorsqu'il dit « Le pacte de responsabilité, c'est prêt, moins de charges sur les entreprises », on ne sait pas encore exactement à quel les entreprises ne savent pas encore comment ça va se passer. Mmh. Et surtout, il y a la contrepartie plus d'embauches et d'investissements. Or, c'est pas vrai. Rien n'a été signé puisque les syndicats et les patrons disent, nous, on attend de voir pour essayer et il n'y aura pas de contrepartie. Et quand il dit encore sur l'écologie, que la France puisse s'engager très vite, prendre de l'avance sur les industries vertes, ne plus être dépendante du pétrole ou du tout nucléaire, mais là, il rêve. Parce que regardez, il avait dit à la fin du septennat, j'aurais fermé Fessenheim, or il faut 6 ans pour fermer une centrale nucléaire et le début n'a même pas commencé, le début du démantèlement. Donc
alors,
moi je crois qu'il rêve et qu'il donne une mission à un gouvernement qui sera très difficile.
En tout cas intéressant que vous parliez de l'écologie parce qu'on note l'absence de ministre vert, Michel Cotta.
Simplement, ce que dit Catherine est vrai, mais c'est la raison pour laquelle il a perdu les élections. C'est un constat avant. Là, on est dans le constat après.
Mais non,
Tu viens de dire exactement pourquoi il a perdu les élections. C'est vrai que c'est une analyse de la perte des élections.
Alors, Michel, en revanche, pas de vert au gouvernement.
Si justement on dit que c'est un gouvernement de la dernière chance, c'est bien parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas tellement de chance. que ça, on est d'accord. Mais parmi les chances, contrairement à beaucoup de gens, je vois le départ des écologistes. Parce que je trouve que les écologistes ont beaucoup contribué à créer ce climat
de
couac, de tension. Ils ont beaucoup contribué à affaiblir l'autorité de Jean-Marc Ayrault. Ils ont beaucoup contribué aussi à affaiblir celle de Hollande. Donc au fond, c'est un choix plus clair. Maintenant, c'est un choix plus difficile parce que quand il y aura le texte de politique générale de Manuel Valls, il faudra qu'il ait une majorité. Le fait de se priver des écologistes est difficile. Mais la preuve que c'est une bonne chose, après tout, pour le gouvernement. C'est
une bonne chose pour Ségolène Royal, surtout, hein, qui hérite
d'abord,
de ce grand
ministère
de l'écologie.
Ça fait apparaître Ségolène Royal dans un poste où qu'elle domine tout à fait et où elle sera professionnelle, hein, l'écologie, etc. Et ça même... entre Cécile Duflot et Ségolène Royal, la personnalité la plus aimée des Français, c'est quand même Ségolène Royal. Donc, c'est une chance à exploiter. Avec ce bémol qui est que les parlementaires écolos sont furieux de la décision de leur cadre et du mouvement.
On entendait très divisés.
Et bon, oui. Mais
Robert Damias,
c'est une chance
sur le sujet, sur les écolos.
Je suis complètement d'accord. Je pense que c'est une. On a toujours dit ici même, d'ailleurs, dans cette émission des Grandes Voix, même si ça n'est pas l'émission aujourd'hui, que au fond, à un moment donné, les écologistes partiraient et que François Hollande pourrait fort bien s'en passer. Quand vous regardez l'arithmétique parlementaire, même si les écologistes devaient voter contre le gouvernement et refuser la confiance à ce gouvernement, avec les radicaux de gauche, il a encore une vingtaine de voix d'avance. C'est seulement si les radicaux de gauche faisaient défaut au gouvernement que ça commencerait à poser un vrai problème. Et ça n'est pas un hasard, d'ailleurs. Si Christiane Taubira a été si protégée, je vous rappelle qu'elle est radicale de gauche, ainsi que Madame Pinel, que personne ne connaît, mais il fallait une représentation des radicaux de gauche pour protéger précisément en fonction du départ des écologistes. Mais moi, je pense que la sensibilité écologiste, et là, Michel a tout à fait raison, d'abord peut-être parfaitement portée par Ségolène Royal, et quand on voit que la quasi-totalité des parlementaires était contre le départ du gouvernement des écologistes, en plus, François Hollande va finalement avoir des parlementaires qui lui seront plutôt favorable, en tous les cas au début, contre la direction des Verts.
Gérard,
oui, alors moi aussi, j'ai été de ceux qui ont critiqué largement les écologistes dans les deux dernières années et leur comportement inacceptable, enfin inadmissible en termes de gouvernement. Mais là, je trouve qu'effectivement, je salue l'exploit de la part de ceux qui ont formé le gouvernement, c'est-à-dire essentiellement le président de la République et son nouveau Premier ministre, d'avoir réussi à ce que se séparer des Verts et que ça apparaisse pas comme on a viré les Verts, mais ce sont les Verts qui sont sortis tout seuls. Oui. Et je ne comprends toujours pas à cette minute, si j'ai vu la tête ce matin de Barbara Pompili et de François de Rugy, j'ai bien vu quelle était leur déception. Et parce que c'est évidemment, ils pensaient qu'ils allaient quand même aller au gouvernement, qu'on allait les rattraper d'une manière ou d'une autre. Et effectivement, l'ultimatum de leur chef de file a bloqué ça. Mais je trouve formidable. Alors, c'est une des chances de ce gouvernement, c'est de ne pas avoir en permanence à céder aux ultimatums, aux oukases ou aux déclarations intempestives des Verts. Et la deuxième chose positive, vous voyez que je suis quand même extrêmement équilibré, la deuxième chose positive, c'est Ségolène Royal. Il y a le mieux et le pire dans Ségolène Royal. Quand je dis le mieux, Ségolène Royal, et ça aussi on l'a dit plusieurs fois ici, c'est les intuitions, elle comprend le pays, elle sait ce que ressent le peuple. C'est pas le cas de beaucoup de ministres.
La démocratie participative. Bah, nous
alors
y sommes
fait aussi des
dans ce studio. Je vous annonce que Manuel Valls s'exprimera ce soir sur la composition de cette première partie de gouvernement sur TF1. Ce sera à 20h. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et puisque je l'annonçais, je vais donner la parole à un élève, notamment de l'école élémentaire République. Tu es en CM2, Joachim. Bonjour.
Bonjour.
Et tu as le micro parce que merci d'être là. Vous deviez avoir la parole comme tous les mercredis, mais vous avez été rattrapé par l'actualité. Donc j'espère que la politique t'intéresse. Oui. Et tu as une question pour nos grandes voix.
Oui, je voulais savoir, est-ce que le Premier ministre décide seul de nommer les ministres ou décide-t-il avec le président?
Alors, Robert, merci Jacques. Bonne question.
Honnêtement, j'entends ici et là, et j'ai même entendu sur Europe tout à l'heure, expliquer que ça n'était un gouvernement que de Hollandais, c'est-à-dire au fond d'amis du président qui auraient tout imposé à Valls. Eh bien moi, je ne le pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, après les précédents Ayrault où tout avait été décidé à l'Élysée, et Fillon où tout était décidé à l'Élysée, là on voit bien que c'est un gouvernement quand même à quatre mains. Je ne vais pas vous le faire dans le détail, je vais vous donner simplement deux éléments. Rebsamen, il rêve depuis 20 ans d'être ministre de l'Intérieur. Valls n'en voulait absolument pas. C'est l'un des meilleurs amis de François Hollande. Rebsamen est au gouvernement.
Certes, et le dialogue social. Il n'a pas dialogué avec vous dans le train municipal.
Ministre de l'Intérieur. À l'inverse, il est bien évident que Manuel Valls aurait aimé quand même déplacer, pour le moins, Christiane Taubira, s'il fallait la garder en tant que radicale de gauche. Mmh. Elle est restée à la justice parce que c'est ce que souhaitait François Hollande vis-à-vis de la gauche de son électorat. C'est un exemple, je pourrais en donner de multiples. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que c'est un gouvernement fait par Hollande ou un gouvernement fait par Valls.
Bon, ta réponse, Joachim. Un peu le président, un peu le Premier ministre. Absolument. C'est un savant dosage. Dernière question d'Adrien, qui est aussi en CM2. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Et tu es préoccupé par ton futur ministre de l'éducation. On recevait Vincent Peillon la semaine dernière, c'est plus lui. Tu as une question.
Qui est le premier ministre de l'éducation?
Ah, c'est joli ça, premier ministre de l'éducation.
Michel Cotta. Ça donne peut-être l'occasion de parler des deux perdants essentiels de ce remaniement, c'est-à-dire Pierre Moscovici qui abandonne les Bercy, et puis Vincent Peillon qui est arrivé avec une vraie conception de l'éducation nationale et peut-être trop théorique.
Et des rythmes scolaires.
Et peut-être trop théorique, c'est sûrement celui qui s'était le mieux préparé, mais comme de temps en temps, ça se passe comme ça, oui. Celui qui est le mieux préparé.
Et à qui on faisait un cadeau formidable, qui était 60 000 enseignants.
Catherine Ney.
Et qui a réussi à se mettre à dos tout le monde enseignant.
Et dites à Adrien s'il est sympa, Benoît Hamon. Comment il est, Benoît Hamon?
Je ne connais pas assez pour le lui dire.
Michel, comment il est, Benoît Hamon?
Je connais bien, il est plutôt... Il a représenté longtemps le courant de gauche. Il est
sympa pour les enfants. Sûrement...
Et puis surtout, ce qui est important, il me semble, dans ce ministère, c'est de respecter une certaine hiérarchie. C'est pas la peine de faire des réformes tout le temps. Dès que quelqu'un arrive au ministère de l'Éducation nationale, il se croit obligé de faire des réformes. Attendons que Hamon n'en fasse pas.
Sympa ou pas, Benoît Hamon? Répondez à Adrien.
Il est sympa. Il est beaucoup plus drôle qu'il en a l'air. Mm-hmm. En revanche, je vais vous dire, le ministère de l'Éducation, c'est terrible parce que vous ne faites rien et vous résistez. Faites quoi que ce soit et vous en prendez plein la figure.
Merci beaucoup. Merci et bonjour à vous, Franck Ferrand, au cœur de l'histoire, de notre histoire de France.
Et oui, et de la musique aujourd'hui, puisque nous allons raconter l'origine, la création de cet opéra que nous adorons tous, Faust de Gounod.
Merci beaucoup. À tout à l'heure, juste après les infos de Pierre de Villeneuve. Merci de nous avoir suivis pour cette édition spéciale. À demain, donc, dans cette Europe Midi. Vous avez la parole entre 12h30 et 14h. Merci aux enfants de l'école République dans le 11e à Paris pour ces questions politiques. Ciao.